Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au mardi 5 novembre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et quand il sonne 11h, vous savez que vous avez rendez-vous avec l'actualité sur votre radio dans cette émission Club de la Presse qui constitue en quelque sorte une aubaine, hein, une plateforme alors pour discuter de l'actualité aussi, décrypter, commenter l'actualité comme cela se doit. Bienvenue à ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte alors de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek, aussi d'ATV, assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lébéné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo et de l'Afrique et aussi alors du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Confrères journalistes, nous sommes au mardi. Adam Adrono est là. Adam, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la radio de la nouvelle génération.
On vient de commencer le mois de novembre. Pas à pas, l'année file à sa fin.
Oui, bien évidemment, et comme vous le savez, ce sont les mois de bilan, et je pense que chacun s'y attelle. On ne l'a pas vu aussi vite passé, mais ça, on n'a pas de choix.
On n'a pas de choix, et l'essentiel, c'est d'avoir le souffle de vie et que Dieu nous accorde toujours cette grâce.
Naturellement.
Pour continuer à vivre et à réaliser et à réaliser nos projets.
Oui, et finir en beauté.
Et finir en beauté, justement, surtout l'année, justement. Et il est très important quand même de faire assez de prudence ces derniers temps, puisque nous sommes à la fin de l'année. La fin d'année rime avec beaucoup de choses.
Des choses, naturellement.
Tout à fait, il faut assez de prudence.
Tout à fait.
Alors, notre chronique littéraire est avec nous. Nous sommes au mardi. Et sans doute, il est là, Claude Assiobautiste. Bonjour.
Bonjour.
Claude, comment vous allez?
Ça peut aller.
Ça peut aller.
Oui, je veux simplement vous rappeler que la journée du 7 novembre, c'est la journée de l'écrivain africain.
Waouh.
Bon, j'invite vos confrères journalistes à rendre cette journée visible. Hein, ne serait-ce que dans un coin de leur papier.
Vous avez parlé du 7 novembre, c'est ça?
Oui, oui.
D'accord. Même déjà, avec cette émission, je pense que c'est aussi un éclat de visibilité que nous mettons sur cette journée.
C'est ça.
En parlant de la littérature, vous savez combien de fois la littérature nous intéresse dans cette émission. Et non seulement cela, mais nous avons créé même toute une rubrique pour cela. Et poursuivant alors nos chroniques introductives, déjà ce matin à la littérature, bien sûr, nous en arrivons aujourd'hui à parler alors des autres écrivains absents, puisque nous avons parlé aussi des autres écrivains le mardi dernier, non plus ceux qui alors sont simplement éloignés du pays, mais ceux qui sont carrément décédés. Alors, Claude, qui sont-ils ces écrivains?
Bon, avant de dérouler cette page nécrologique, je veux réparer une panne là. Lorsque je parlais des écrivains de proximité et qui vivent au Togo, j'ai oublié de parler de Victor Aladji, un grand doyen,
tout à fait, un doyen de la littérature,
qui a écrit L'équilibriste, A conscience mon amour, et j'ai oublié le troisième qui doit être quelque chose, La voix de l'ombre, ou quelque chose comme ça. Il y a aussi Kofi Gomez. Kofi Gomez, l'auteur de L'argent, cette peste, Gaglo,
l'argent, cette peste. Qui ils a été mis toujours, en scène.
Voilà, ils sont toujours dans le pays. S'agissant des autres qui sont décédés, malheureusement, ils sont nombreux. Et je vais simplement citer un, parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Et c'est mon ami Kosivi. Comment elle appelle la Sénat Kwasivi, qui a écrit les vautours et autres nouvelles, qui est décédé très prématurément. J'ai fait la fac, j'ai fait l'université avec lui. Hein, et je l'ai perdu de vue. Et il a écrit un livre comme ça. Le titre s'appelle Les vautours. Nous étions en 1990. Vous devez deviner, c'est l'éternelle question, hein, des déceptions, hein, de la gestion monopartiste de nos pays et ses impacts. Je crois que c'est ça. Mais malheureusement, je ne l'ai pas lu. Comme je ne l'ai pas lu, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les autres, comme je vais les citer, je crois, après, je sais que vous allez me demander quelles sont les œuvres, puisque l'écrivain, c'est ses œuvres, et j'économise de faire la liste. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, on va le découvrir.
D'accord. Avançons donc, Claude. Maintenant, ces écrivains, quels sont leurs profils et aussi parcours qu'ils ont eu à faire en tant qu'écrivains?
Curieusement, parmi eux, il n'y a aucun dramaturge. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent une pièce de théâtre. Il n'y a que des poètes et des romanciers ou essayistes. Je veux partir des poètes. J'ai noté trois. Hein. Il y a Akakpo Tipam, le vieux Akakpo Tipam, qui dans le recueil, l'écriture est plutôt naïve. Hein, c'est encore naïve, ce n'est pas encore très relevé. Il y a Janvier Abela, hein, le professeur
Abela, oui, Abela,
qui a écrit, Akakpo Tipam a écrit Rythme, Cadence, Rythme, je crois ça, hein, Rythme, Cadence, quelque chose comme ça. Hein, Janvier Abela a écrit Ode Lyrique, mais c'est une poésie savante. Hein, mais le troisième, c'est Toussaint Guérou, qui a écrit Les maisons, les nuages. Hein, ou plutôt les nuages, les maisons. Hein, est-ce que vous suivez? Donc, oui. C'est une poésie fluide, hein, mais captivante. Hein, captivante. Mm. Bon, il y a surtout les prosateurs, ceux qui ont écrit des romans. Le doyen, c'est le Bénino togolais Félix Couchot, qui s'intéresse au problème. Il a écrit il a beaucoup écrit, hein. C'est 20 romans.
Tu as fait les Scouchereaux ?
Oui. Oui, mais les œuvres les plus remarquables, c'est L'esclave et L'héritage, cette peste. Il s'occupe, le problème d'héritage qui pourrissent les relations familiales. Hein, ces œuvres-là que je viens de citer sont actuelles et universelles. Hein, il y a David Ananou, le fameux David Ananou, avec son œuvre polémique, qui serait encore plus polémique aujourd'hui, Le fils du fétiche, où c'est un grand agresseur des pratiques animistes, hein, et lui-même il est catholique. Il y a Kanyi Diagoué Kanyi, hein, qui a écrit une seule œuvre, C'est Destin enchaîné, où on va. Comment la tradition enchaîne la femme pour rester fidèle à l'homme dans le foyer, alors que l'homme peut se déchaîner, justement, peut se déchaîner par rapport à cette valeur. Hein? C'est ça, Kanyi, il y a eu Kanyi. Il y a celui que vous connaissez bien, Dogbé, Emmanuel Dogbé.
Yves-Emmanuel Dogbé.
Oui, qui a écrit deux œuvres, L'incarcéré, qui sa biographie, il a fait la prison, il a parlé de ça, et l'œuvre qui est très connue, c'est La Victime, qui parle du racisme dans le mariage. Il y a le géant Edem Kodjo, qui a écrit des essais, souvent, je vis surtout les Africains à lire, et demain l'Afrique.
L'Afrique.
Demain l'Afrique. Et là, il a fait un examen clique, hein, de la situation africaine, et puis il propose toujours le panafricanisme comme solution. Il martèle ça. Et il revient sur le même thème dans l'œuvre plus lyrique, hein, et L'être à l'Afrique cinquantenaire, hein, c'est plus lyrique, et c'est sur le même thème. Et il a écrit également L'Afrique du déclin au défi, c'est l'Europe du déclin au défi. Il ne croit pas Savinho qui sera aujourd'hui, dont on peut discuter, il ne croit pas au déclin de l'Europe. Hein. Il ne croit pas. Il croit que l'Europe est tellement solide que, quelle que soit la vicie de l'histoire, elle va retomber sur ses pieds, mais elle sera obligée de refabriquer le monde.
Et elle a encore de beaux jours devant.
Oui, mais de s'appuyer sur des valeurs plus universelles et plus fraternelles. Hein, c'est ça. Et il a écrit également « Au commencement était le grève ». Et c'est un roman et où, ce qui parle de la guerre du pouvoir, la guerre autour du pouvoir, sur fond de tribalisme. Il y a Méritonion Bénissant, hein, et Tétévi, et Tourbillon qui a écrit Tourbillon, et si c'était à recommencer. Là, il parle dans ses œuvres des charmes du village. Et puis il a écrit d'autres où il étale les méchancetés humaines, heureusement qui ont une solution. Et il est une seule affaire. Il y a la très grande romancière Jeannette Aronsou, une femme qui vient de partir, ça ne fait pas longtemps, qui a une écriture très captivante et vivante. Lorsque vous lisez ces œuvres, vous avez l'impression d'assister à un film. Hein. Ces deux œuvres les plus abouties sont une longue histoire et Le Trophée de Cristal. C'est des problèmes de couple et la nécessité. Elle invite surtout les femmes à ne pas faire du foyer une carrière. Le mariage n'est pas une carrière. Hein. Et la solution pour éviter ces nombreux problèmes de couple, c'est que la femme se prenne en charge. Ça peut alléger ses problèmes.
D'accord.
Voilà, c'est tout.
C'est d'accord. Merci beaucoup, Claude. Nous sommes rejoints par Isidore Kolo. Isidore, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour à Claude. Bonjour et à mon confrère Adam.
Adam Adjournou.
Adjournou, et bonjour à toutes et à tous.
D'accord. Une question pour Claude.
Non, pas une question, mais dans sa déclinaison des auteurs. Couchereau est passé hein, comme un illustre inconnu, alors que c'est lui le père de la littérature togolaise. Couchereau, c'est lui le père de la littérature togolaise. C'est ce que je voulais seulement relever.
D'accord, c'est ce qu'il a évoqué.
Et non, c'est que c'est vrai, mais nous avons un impératif de temps. Et ils sont nombreux.
Tout à fait.
Décidés sur la liste noire. Et il fallait parler de chacun. Et voilà. Sinon, ces œuvres-là, nous allons revenir sur ces œuvres. On va
tout
les approfondir. Et puis, n'oubliez pas que c'est un auteur que les Béninois disputent avec nous.
Oui, mais il ne peut pas disputer.
Mais il a fait ici. Hein.
Non. Même géographiquement parlant,
oui.
Mais il est du Togo.
Il est du Togo, et ça, c'est vrai.
Il est du Togo.
Même son fils, petit-fils, doit être maintenant professeur d'université.
Il est dans l'économie, non.
Et puis, c'est quelqu'un qui a milité dans le CUT.
Oui, non seulement.
Il y a beaucoup de choses.
De par sa situation géographique, aujourd'hui, on a laissé
le côté, voilà.
Mais on ne peut pas dire qu'il est béninois.
Mais voilà, les hommes sont comme ça.
Mais le même.
Les belles choses, on veut les sacrifier.
Si c'est
un délinquant,
on n'en veut pas. On n'en veut pas.
Il dit
qu'on le même problème, c'est que actuellement, avec le chanteur là,
puis à son âme aussi, et le nom m'échappe un peu, et.
Qui? Vous voulez parler de qui?
Le chanteur béninois qui a fait avec les Sénégalais.
Bon. L'autre là, qui, l'homme de la salsa là.
Oui.
L'homme de la salsa.
Oui, d'accord. Et Jonas Pedro.
Jonas Pedro, oui.
Togolais.
Oui.
Il est togolais de ça.
Ah bon?
Il est togolais de ça.
Oui, il est minant.
Il est minant.
Les minas sont à cheval.
Justement. Merci beaucoup, Claude, pour cette chronique.
En plus, recadrer la frontière du Togo à partir de, comment appelle-t-on, et Grand Popo. comme ça, tout sera clair.
D'accord, ok, c'est compris. Nous sommes rejoints par Eric Parcou de Johnson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal
FM. On n'a pas l'habitude d'être
à j'espère, Ricard, j'espère que vous allez bien.
Oui, ça va bien, merci.
D'accord. Ok, voilà, nous allons maintenant parler de nos journaux et aussi des débats déjà en studio. Il y a des journaux qui sont en kiosque hein, ce matin et déjà quand on prend le journal de Adam Adronou, Adam, Vision d'Afrique, vous écrivez hein, déjà sur à la une de votre journal une éducation plus équitable et prometteur, un engagement pour un développement durable, l'Afrique au cœur de la réunion mondiale sur l'éducation. Vous parlez aussi alors du classement Mo Ibrahim et vous écrivez que la CDAO, deuxième meilleure organisation sous-régionale en Afrique, la bonne gouvernance sur le continent a cessé de progresser selon le rapport. Autre journal, c'est le journal Le Médium qui écrit politique et opposition avec un éditorial Je mourrai de ma propre mort, c'est ça le titre alors de l'éditorial. Et à la une alors de ce journal, il y a Jean-Pierre Fabre justement cette question, qu'est-ce qui justifierait la fatwa contre l'ANC, s'interroge le journal. Autre journal, c'est l'Union pour la Patrie. Le journal Union pour la Patrie, vous écrivez « Relations solides Togo, Banque mondiale FMI, le Togo, pays pilote de l'initiative Fast Track, initiative pour le genre, le Togo, membre du Global Leader for Development Impact ». Également, il y a l'économie, hein, l'économie, recouvrement des impôts et taxes. Et ça va se durcir avec de nouvelles mesures en 2025-2026. Vous écrivez aussi économie maritime, environnement marin, annonce de matériel pour la surveillance. Autre journal, c'est le correcteur qui revient sur les propos du ministre Christian Trimoy. Le correcteur qui écrit Christian Trimoy, le déni de la réalité. Également, le correcteur évoque le concours de la fonction publique. Le correcteur écrit « Concours fonction publique, le grand désordre organisé d'un gouvernement sans boussole ». Encore autre chose, bien sûr, à la une alors du correcteur, c'est la reconnaissance alors de Macron des crimes commis par la France. C'est ce que le journal écrit. Les Amazones de la République invitent les chefs d'État africains à jouer leur rôle. Autre journal dans les kiosques aussi ce matin, c'est bien le journal du Togo. Le journal du Togo qui écrit, bien sûr, à la une, Fédération togolaise de taekwondo, quand Franck Ehi et ses sbires défient le ministère des Sports et le CNO Togo. Également, un autre journal, c'est le journal Planète Écologie qui évoque les questions du phénomène climatique extrême en Afrique. Le journal écrit « Phénomène climatique extrême en Afrique, le continent noir peut-il en guérir ?» se pose justement le journal. Alors, nous revenons sur ce sujet évoqué hein, à la une alors de votre journal. Je veux bien parler de vous, Eric. Vous écrivez « Relations solides Togo, Banque mondiale FMI, le Togo, pays pilote de l'initiative Fast Track, initiative pour le genre. » Alors concrètement, il s'agit de quoi, Eric?
Merci Pascal. Je pense que le mois d'octobre a été un mois très remuant pour la Banque mondiale, le FMI d'une part et le Togo de l'autre. Ça veut dire que la Banque mondiale et le FMI ont eu à faire beaucoup dans leur relation, dans leur coopération avec le Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que déjà la semaine dernière, le responsable, le directeur adjoint Afrique du FMI a été reçu par le chef de l'État et à sa sortie d'audience, il s'est prononcé sur les relations du FMI avec le Togo en disant que le FMI va soutenir les économies de l'Afrique de l'Ouest puisqu'il est représentant de toute la sous-région au niveau du FMI. Alors, de l'autre côté, si cela fait suite à aux assemblées générales de FMI et de la Banque mondiale à Washington, où le gouverneur pays du FMI, et qui est le ministre de l'économie et des finances, et le gouverneur pays de la Banque mondiale, qui est docteur Sandra Johnson, ont participé à ces assemblées générales en compagnie d'autres ministres, comme le ministre de l'énergie, Clos. Et donc, le Togo a participé à tout ceci et a essayé de mettre sur la place ses perspectives économiques et financières. Et donc, à la suite de ces réunions, beaucoup de réunions, ils ont eu à participer à beaucoup de réunions, et donc, ils ont reçu l'information comme quoi le Togo est choisi comme pays pilote de l'initiative Fast Track, initiative pour le genre. Ça veut dire que le Togo fait énormément dans la promotion du genre, et donc pour la Banque mondiale, le FMI, qui instaure désormais une nouvelle initiative, il faut que certains pays soient des pays pilotes afin de voir dans quelle mesure cette initiative va prospérer. Et donc, le Togo, notre pays, a été choisi comme pays pilote parmi tous les pays du monde. Et donc, cela rapporte tout de suite, il faut le dire, plus de 60 millions de dollars. Hein, et que les institutions de Bretton Woods vont mettre dans la cagnotte pour aider quand même le pays à essayer de mettre en place quand même cette initiative pour voir comment ça va fonctionner. Et je crois que cette initiative a d'abord comme objet l'autonomisation des femmes et la dividende démographique en Afrique subsaharienne. Et donc je crois que c'est très important, cette initiative de la Banque mondiale pour aider nos pays à mieux aller avec le genre.
D'accord. Alors, Isidore, c'est vrai, quand on écoute Eric par rapport à cette réunion de la Banque mondiale où le Togo a été choisi même d'ailleurs comme étant un pays pilote pour cette initiative, on pourra dire que la politique de la promotion du genre a commencé par porter de fruits au Togo, c'est ça?
Peut-être. Sinon, en Afrique, le Rwanda est en pole position. Je ne sais pas pourquoi que le choix est porté sur nous, mais félicitations. Eric n'a fait que rapporter les faits. Eric n'en est pour rien. Moi, je me dis, j'ai côtoyé des sommités du FMI. Hein. Le FMI ne s'invite pas.
C'est nous-mêmes qui l'invitons?
Ah oui, c'est quand ça va mal que le FMI intervient sur votre propre demande pour redresser votre économie. C'est ça la solution, c'est ça la réalité. On ne peut pas se vanter que le FMI est intervenu, on a travaillé. C'est que ça va mal. Quand vous êtes malade, c'est le docteur qui vient vous soigner. C'est ça le FMI. Pourquoi le FMI n'intervient pas aux États-Unis? Pourquoi le FMI n'intervient pas en France? Pourquoi le FMI n'intervient pas en Chine? Non, ayons un peu de jugeote.
Mais oui,
écoute. Oui. Hein? C'est la triste réalité. Le FMI intervient dans des pays où il y a des problèmes. On ne peut pas s'applaudir à rompre les phalanges que le FMI, on a travaillé avec le FMI, nous sommes pays pilotes. Non, non, non.
Non, mais ici, ici c'est sur un point bien précis, c'est-à-dire la promotion du genre.
Je te dis que le Rwanda est en avance en Afrique.
Oui, mais nous aussi, nous faisons des efforts.
C'est ça qu'il s'agit. Je peux intervenir. D'abord, la première chose, c'est de dire à Isidore qu'il y a au total 12 pays pilotes pour cette initiative. Et donc, le Rwanda fait bien partie. Ce n'est pas parce que le Togo est malade économiquement uniquement que le FMI intervient.
Ah, je peux le FMI,
je peux lui dire aujourd'hui,
le FMI intervient jamais dans un pays où il n'y a pas de problème.
Je peux lui dire, il a donné l'exemple de la France que je connais très bien. Aujourd'hui, la dette de la France s'évalue à 3000 milliards.
Est-ce que la famille est
venue là-bas? Ils ont laissé.
Je te dis, la France est au bout de la faillite. Et quand tu suis un peu l'actualité internationale, tu vas comprendre cela. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le FMI intervient dans tous les pays membres. Et donc, à chaque fois.
Ils sont malades. Il faut l'ajouter.
Non, pas forcément. Tout le monde est malade.
Complètement malade.
Je te dis, tu dis que le FMI n'intervient pas en France, aux États-Unis, etc. Je te dis, non, ce n'est pas le cas. Parce que la France est au bout de la faillite. Et ce qui s'est passé en Grèce se passe aujourd'hui en France. Et donc, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, le gouvernement français qui vient d'être nommé est en train de chercher les voies et moyens pour sortir de cet endettement.
Alors là, tu me rejoins.
Mais attends.
C'est un pays malade. Ce n'est pas un trophée de guerre.
Mais attends, quand on dit qu'il y a une initiative et le Togo est pris comme pays pilote, je ne vois pas en quoi ça peut déranger. Au contraire, ça permet de renforcer notre économie dans ce domaine spécifique qu'est le genre, tout simplement.
D'accord. Alors, Adam, là, je recadre ma question. La question que j'ai posée tout de suite à Isidore, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, nous avons vu les autorités alors du pays qui prennent à cœur un certain nombre alors de politiques concernant surtout la politique alors du genre. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que cette politique a commencé par donner ses fruits?
D'abord, il faut faire remarquer que c'est depuis le 8 octobre dernier que le Togo et le FMI avaient signé un accord. Cet accord porte sur les politiques et réformes économiques nécessaires pour la conclusion d'une première revue programme de 42 mois. Donc, qui est appuyé par une facilité élargie. Ce programme qui prévoit en tout cas, un financement de 293,60 millions, soit environ 390 millions de dollars, une fois validé par le conseil d'administration. Donc, je pense que c'est à la suite de cela que, en tout cas, cette initiative-là, comme le rappelait Eric, ou le Togo, vous savez, le Togo, moins que d'autres, mais également plus que d'autres, fait son petit bonhomme de chemin. On le disait tantôt, il y a un rapport de Mo Ibrahim qui a dit que, en tout cas, la bonne gouvernance a cessé de progresser sur le continent. Ça veut dire quelque part que sur cette notion de bonne gouvernance, nous avons également des efforts à faire. Donc, justement, si tel est que nous avons des institutions, qu'on ait des problèmes ou pas, nous avons des institutions qui peuvent plus ou moins évaluer nos politiques. Et comme le disait toujours à l'époque de Humbo, d'abord les réformes sont d'abord faites pour nous-mêmes. Les réformes sont faites pour nous-mêmes, les Togolais. Puisque lorsque vous avez un gouvernant en face, ne faites pas des réformes justement pour aller tout simplement encaisser des points. Mais si tel est qu'on peut évaluer ces réformes, puisque aujourd'hui nous sommes dans un environnement concurrentiel et très compétitif, et si nos programmes et projets peuvent être évalués en comparaison avec d'autres pays, qu'il nous vaut aujourd'hui, en tout cas, d'être en tout cas choisi comme pays pilote pour des projets, je pense qu'on peut plus ou moins dire que voilà, ces réformes en matière de la promotion du genre ont commencé déjà par porter ses fruits pour répondre à votre question. Mais au-delà de ça, je pense que l'Afrique lui-même est en train de faire des efforts. Nous publions également à la une aujourd'hui un fonds technologique de capital risque qui a finalisé un closing de 70 millions de dollars, toujours dans cette perspective d'égalité du genre en Afrique. Donc, au-delà des institutions de Bretton Woods qui sont sujets aujourd'hui et à critiquer, etc., il y a l'Afrique également qui essaie de mettre en place des initiatives pour encourager, en tout cas, ces réformes liées donc à l'égalité du genre. Cela peut porter sur d'autres aspects que, en tout cas, ces institutions de Bretton Woods n'essaient pas d'évaluer pour réellement avoir des impacts qui vont dans le sens de cette promotion du genre et qui touchent en réalité le genre dans sa profondeur. Parce qu'on ne peut pas avoir tendance de dire que voilà, bon, on essaie donc de faire la promotion de l'élite et parler véritablement que cela impacte la femme. La femme, lorsqu'on parle de femme, je pense que la femme rurale qui se bat nuit et jour pour véritablement enfin, faire rayonner la vie dans nos sociétés puisse donc être impactée. Je le disais hier lorsqu'on parlait du fait que le Togo a fait un bond en ce qui concerne l'éducation sur le mot Ibrahim où on essaie de faire. J'ai dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas des félicitations du gouvernement, mais ce sont les parents d'abord. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation, on ne va pas se leurrer, c'est d'abord les parents qui ont compris le bon fondé de l'éducation et ont adhéré donc à cette politique-là. On ne peut pas dire que ça. Donc c'est
ok, nous allons, chers confrères, nous allons observer. Voilà, on va juste observer une pause. On va revenir. Voilà, nous revenons dans cette émission Club de la Presse et nous allons. Eric, avant de quitter, vous voulez vraiment ajouter quelque chose?
Je pense que nous étions en train de parler des bonnes relations qu'il y a entre le Togo et les institutions de Bretton Woods. Vous savez, en quelques années, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo est passé de 295 millions de dollars à 121 milliards de dollars en 2023, en 2017.
Ce sont des dettes.
2023. Ça veut dire que nous avons mis sur la table les difficultés, les perspectives économiques que nous avons et donc les institutions de Bretton Woods nous suivent et disent voilà, donc lorsque vous arrivez à mettre en exécution les programmes que vous-même vous définissez, ça veut dire que on peut toujours vous accompagner et ceci par rapport à nous, ce que nous faisons chaque année comme budget. Et je crois que aujourd'hui nous sommes dans un budget programme où chaque pan du gouvernement essaie de faire des projets que l'État finance avec l'appui de ces institutions de Bretton Woods.
D'accord, Isidore. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce développement parce que nous avons du fonds à mobiliser en interne. Qu'est-ce qu'on en fait? Si la Banque mondiale veut financer, ce n'est pas des dons, c'est des dettes. Vous hypothéquez l'avenir de vos progénitures. C'est ça. On va se féliciter qu'on a augmenté les fonds de la Banque mondiale. Donc, nous sommes les meilleurs élèves. Non, c'est que nous régressons. Nous n'arrivons pas à mobiliser, ou soit nous mobilisons les ressources en interne, mais nous les utilisons très mal.
D'accord.
C'est ça le problème. Il nous souvient que, il fut un moment, la Banque mondiale a voulu faire des prêts au Ghana. Le Ghana avait refusé. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Allez-y chercher. On ne passe en orgueil que la Banque mondiale a augmenté son enveloppe. Ce sont des dettes. On hypothèque l'avenir du pays.
On n'hypothèque pas du tout l'avenir du pays. Quand tu me parles du Ghana, aujourd'hui, c'est le Ghana qui demande plus de 3 000 milliards à la Banque mondiale et au FMI. Ça veut dire que quand le Ghana a dit « je ne veux plus prendre de l'argent du FMI », alors le Ghana a tout bloqué. Aujourd'hui, le Ghana, l'économie ghanéenne est en difficulté.
Oui,
et donc, c'est le gouvernement ghanéen qui demande plus de 3 000 milliards au FMI.
Les Ghanéens vont faire ce procès à Nana Akufo-Addo.
D'avoir fait quoi?
D'avoir mal géré le pays.
Ok, d'accord. Alors, c'est une mauvaise gestion. Je voudrais qu'on quitte le sujet.
Non, mais vous donnez, quand tu donnes l'exemple du Ghana, c'est comme si l'économie ghanéenne.
À l'époque,
avant
Nana Akufo-Addo, le Ghana avait refusé.
D'accord, Isidore, c'est bon. On va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet.
Alors,
c'est vrai qu'hier, on parlait même d'ailleurs de ce classement de l'enseignement de qualité. Hier, il y a Evel de la Nation qui nous annonçait que le Togo occupe alors 5e rang sur le plan africain. Mais j'ai vu d'autres rapports aussi où on nous parlait plutôt alors de 22e sur le plan africain. Finalement, qu'est-ce que nous allons entendre?
Il faut véritablement donc mettre la différence. C'est-à-dire sur le rapport global.
Oui.
Le rapport était d'évaluer un certain nombre de secteurs, y compris le secteur éducatif.
D'accord.
Dans le rapport global, le Togo est 22e sur les 54 pays évalués. Maintenant, sur l'aspect éducation, c'est là où le Togo est 5e.
L'enseignement de qualité.
L'enseignement de qualité est 5e. Lorsque vous le lisez, vous verrez également dans tous les autres secteurs.
Alors, le rapport global porte sur quoi?
Non, l'indice Mo Ibrahim porte, comme je l'ai dit, il y a le développement humain qui est évalué. Il y a certaines politiques publiques également qui sont évaluées. Donc, de toutes les façons, c'est tout ceci réuni qui a permis au Togo de faire ce que, quand on parle de 22e, le Togo a fait quand même des bons. Ça veut dire, il a eu 53,8 sur 100 les notes évaluées et a progressé de plus 4,2. C'est ce qu'a dit donc le rapport. Oui. Et comme je l'ai dit, la sécurité, l'état de droit, la participation politique et droits humains, gestion économique et infrastructure, éducation, voilà les secteurs qui sont évalués. Donc, lorsque vous prenez, il y a un classement individuel lié donc à ces aspects-là. Mais globalement, le Togo est 22e.
D'accord. Alors,
je voudrais dire, en réalité, ce rapport Mo Ibrahim 2024 s'est penché sur les 17 objectifs de développement durable. Et donc, quand on prend le premier objectif, on évalue les secteurs vitaux de l'État qui sont évalués dans le premier objectif jusqu'au 17e objectif de développement durable. Voilà globalement
sur
17 objectifs de développement durable.
C'est 17, oui. Alors moi, ma question, Eric, est-ce que ces derniers temps, on ne mise pas trop sur des classements?
C'est important. Pourquoi? Ça veut dire que nous, quand nous disons tous les jours aujourd'hui que le monde est devenu un village planétaire, c'est que vous êtes suivi partout et vous aussi vous suivez les autres. Cela vous permet de savoir concrètement si ce que vous faites est bien pour les populations. En réalité, le tout, c'est quand on parle de développement, cela concerne le développement et des individus, le développement des populations. En réalité, les objectifs de développement durable, au début on parlait des OMD, objectifs du millénaire pour le développement.
C'était 8.
C'était 8 objectifs. Et c'était pour l'élimination ou l'éradication totale de la pauvreté, de la faim. Surtout. Mais ces objectifs-là n'ont pas été atteints et donc ça a été élargi. On les a sectionnés pour pouvoir permettre à chaque pays de prendre en compte les différents secteurs vitaux. Aujourd'hui, tout ce que vous faites, il y a une évaluation qui se fait au niveau de plusieurs indicateurs. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de l'éducation en pensant que tout ce que vous faites ne concerne que vous. Non, vous êtes un pays, vous êtes une entité, mais de façon globale, vous vivez sous le joug de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et donc, il y a des entités, il y a, des organisations qui sectorielles qui vous suivent de près et qui voient ce que vous faites. Ça vous permet de vous évaluer tout simplement.
D'accord. Alors Isidore, est-ce que ces classements, puisque je posais la question à Eric tout de suite, que ces derniers temps, c'est comme si on mise trop sur des classements, on écoute des classements par-ci, on écoute des classements par-là, est-ce que ça reflète vraiment la réalité?
Non, moi, j'ai toujours eu à dire, et ça, tout le monde peut se le dire, quelles sont ses performances économiques? On dit que le Togo est le premier pays et classé doing business. Et après ça, ça a révélé que c'était du plus pauvre. On a arrêté ce truc de doing business qui est devenu
business ready.
Business ready. Et nous sommes aussi pays pilote, dans Business Ready. Quel est l'impact sur le panier de la ménagère? Ça, c'est ma grande question.
Vous ne trouvez pas d'impact?
Pas du tout. au point que les gens sont obligés d'aller ramasser du riz, hein, sur un dépotoir.
Est-ce que c'est pas un fait isolé?
Non, c'est pas un fait isolé. C'est symptomatique. Les gens ont dit que si il leur a demandé de l'eau, ils vont le refaire. Moi, j'avais intitulé « Monsieur le Président, nous avons faim. » Tout le monde a faim. Mais quel est ce pays que vous gouvernez? Et seulement, c'est les institutions, hein, qui vous applaudissent, que vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Alors que vos citoyens même tirent le diable par la queue. Et ont le courage de le dire, d'interpeller nos autorités pour descendre dans l'arène. Voir ce que le vécu, le quotidien du Togolais. Des gens difficilement arrivent à manger deux fois par jour. Même une fois, c'est difficile. J'ai rencontré des gens qui disent que vous connaissez Gonazo. Vous ne connaissez pas Gonazo.
Allez-y, plus, allez-y, si oui, vous oui. Connaissez, allez-y.
Mais les gens disent que bon, c'est de ça qu'ils vivent. Ils achètent 100 francs avec du gari.
Ils sont où?
Ils sont pleins, si vous voulez.
Sortez, Lomi.
Sortez, vous allez les rencontrer. Hein? Les meilleurs, allez voir les émigrants. Aujourd'hui, le quoi appelle-t-on, et l'haricot, le beurre d'haricot est à 4 000. Tu ne peux plus acheter complet. Hein? C'est ça qu'on appelle non, complet. 200 francs là, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Alors qu'on achetait complet à 100 francs. On mangeait. Mais les maçons, hein? Mais c'est pas de quoi ils vivent aujourd'hui, puisque c'est leur plat préféré.
Parle. D'accord.
Toutes ces performances n'ont aucun visage humain.
D'accord. Adam, est-ce que aussi vous avez l'impression que c'est du chiffrisme, en quelque sorte, qu'on est en train alors de faire avec ces classements et qu'il y a de contraste entre la réalité et ces classements?
Non, vous savez, je pense que nous ne devons pas faire l'amalgame. C'est vrai, personne n'a dit que tout est rose. Et je pense que, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez les routes migratoires aujourd'hui, lorsque on essaie de taxer nos dirigeants africains d'une mauvaise gouvernance, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont sur les routes migratoires et meurent à coup de route. Donc, vous convenez avec moi que ça doit faire mal. Ça doit faire mal parce que vous dirigez un pays, on vous dit que voilà... C'est du fait que c'est pas encore ça que les gens voyagent. Donc, ça veut dire que quelque part, il faudrait quand même que les responsabilités soient situées et voir, dans le pire des moments, faire en sorte que, à quel niveau ce développement atteint ou quels sont les efforts que vous faites pour arriver véritablement donc à améliorer le quotidien de vos populations. C'est vrai, tout reste un défi. Tous les secteurs restent donc des défis à relever. Donc c'est en ce sens que, mais en tout cas ce n'est pas nouveau, hein, on parle, Moïse Ibrahim fait plus de 10 ans, nous voyons par exemple le FMI qui est là sur les pays africains, etc. Et j'ai tout à l'heure démontré que nous-mêmes également, nous avons des indices, nous avons quand même des institutions qui essaient d'évaluer ce que font donc nos gouvernants. Au-delà de ça, c'est pourquoi je dis, les réformes, quelque part, ne sont pas faites pour les institutions. Les réformes, le disait toujours, je pense, pour prêter le mot au Premier ministre Humbo, qui l'a toujours dit, les réformes sont faites d'abord pour nous-mêmes. Et si tel est que, au regard du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de visa alors qu'on parle de route migratoire, c'est tous les pays confondus. Donc ces indices-là viennent en réalité nous rappeler le niveau atteint, ce qu'il faut faire pour améliorer. Donc quelque part, lorsqu'on prend ces rapports-là comme étant, je pense qu'il y a encore un autre rapport qui a été publié concernant dans l'opinion, dont on n'a pas encore décortiqué. Je pense que ça a été seulement hier. Hein. On n'a pas encore décortiqué, on reviendra là-dessus. Donc tout ceci, c'est justement faire en sorte que nous puissions véritablement, il a dit, il doit parler tout à l'heure du Rwanda, de toutes les façons. Le Rwanda est devenu un modèle. Et tel est que, si on peut l'évaluer, que le Togo tend aujourd'hui, c'est le politique togolais tend aujourd'hui, à rimer un peu avec ce que fait le Rwanda. Je pense que, plus que certains pays, mais moins également comme que d'autres, le Togo fait son petit bonhomme de chemin, comme les autres pays. Et justement, ça reste un défi. Mais là où on atteint, il faudrait quand même qu'on puisse dire que voilà, ce que vous avez fait, ce qui reste à faire pour améliorer cette direction. Je rappelle que tout ceci, quand quelqu'un lui veut aller en Europe pour tout faire, il ne restera pas, il ira.
D'accord. Mais quand on dit le Rwanda, on ne peut pas rester au Togo et savoir ce qui se passe au Rwanda s'il n'y a pas de ces évaluations. On ne peut pas parler de la France en étant au Togo si on n'a pas des indicateurs sur les différents secteurs. Donc, je pense que toutes ces évaluations-là nous permettent de nous mettre à niveau. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas autant investir dans l'agriculture et que les produits de première nécessité, les produits vivriers, coûtent autant cher. C'est une question qui taraude la tête de tous les Togolais. Comment on nous dit que, par exemple, il y a eu un projet comme Pniassa ou Paza et tout ça, qui ont coûté plus de 600 milliards avec l'appui de la Banque mondiale et de la BAD, etc. Et qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec le bol de maïs qui coûte 1000 francs. Ce n'est pas logique du tout. Et donc, lorsque il y a de ces évaluations et on vous dit, il faut appuyer sur ce bouton-là pour accélérer les choses et permettre aux populations de mieux vivre. Parce que, après tout, comme on le dit, hein, c'est le mieux-être des populations qui est plus important.
D'accord. Oui, mais j'ai l'impression comme si nous sommes évalués, hein, pour nous dire que vous vous portez bien. Que vous êtes heureux, alors que toi-même, tu sens que tu n'es pas heureux. Mais c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe.
Il y a un fossé entre la réalité. Oui,
on nous a chanté Fopad aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu? En principe, avec tout l'argent qui a été injecté dans ces trucs de Fopad là, aujourd'hui, on ne peut pas avoir le bol de maïs à 1000 francs, le bol d'haricots à 4000. C'est tout ce que moi je dis. Il y a un contraste entre ce qui se dit et ce qui se fait. On ne peut pas évoluer dans ce sens-là. Ce n'est pas quelqu'un à te dire que, Pascal, tu es heureux. Tu sais que tu es malheureux. Et les gens te disent que tu es heureux.
Mais ce sont des critères bien définis.
Non, bien évidemment, on n'a jamais aucun rapport n'a identifié, dire que voilà, bon, c'est parce que vous êtes mieux classé. En réalité, les rapports, comme je l'ai dit, pour évaluer nos pays, c'est justement sur des politiques pour améliorer ce qui est fait. Donc, et ce que dit Isidore, en réalité, rejoint pratiquement le pourquoi on doit évaluer. Puisque ces rapports-là ne disent pas fondamentalement que c'est justement parce que le Togo a fait ce score. Parce que nous avons parlé de l'éducation. Hein. Si vous voyez les autres scores, c'est vrai qu'il y a des secteurs où il y a encore des efforts à faire. Mais justement, c'est faire en sorte que on puisse améliorer ce qui ne l'est pas encore et faire en sorte que ce Togolais-là, qui n'est pas heureux comme il le dit, puisse l'être dans peut-être seuil donné, peut-être dans 2 ans, parce qu'on a su améliorer tel secteur et ce secteur est pourvoyeur de telles choses pour que le Togolais puisse se sentir heureux à l'avenir.
Parlant des normes dans l'éducation, il ne faut pas avoir plus de 30 élèves par classe. Allez-y voir. Au lieu de 30, mais parfois même les enseignants sont obligés de placer des échafaudages pour pouvoir parcourir les allées. Il y a plus même des allées dans des classes.
Mais ça s'est beaucoup amélioré.
Ça s'est beaucoup amélioré.
Avec la construction
Nous sommes à combien d'effectifs?
Non, le classe. Togo,
après, le minimum, c'est 75.
Oui, la trilogie au niveau de l'éducation. C'est vrai que quand vous le dites, c'est vrai qu'il y a des écoles où vous trouverez également des effectifs.
Notamment des écoles.
Mais il y a quand même, je pense, sur des aspects, je parle de tout, on dit la qualité de l'éducation, le maintien dans le système. Donc la qualité de l'éducation, c'est justement avoir des enseignants bien formés, la disponibilité également des infrastructures. Mais tout ça là reste des défis, de toutes les façons. C'est pourquoi le ministre a l'habitude de dire l'école vit. Il a, avec ses défauts, ses faiblesses et ses forces.
En parlant de l'école de la République.
Tout à fait.
Dans ce pays que nous avons, on a un enseignement à deux flux. Certains élèves viennent le matin et d'autres viennent le soir.
Il faut qu'on comprenne une chose.
Oui.
Ce n'est pas que l'éducation au Togo.
Est-ce qu'on a même une éducation?
Enseignement.
Il n'y a pas de ministère d'éducation. au Togo.
On laisse Eric se prononcer, s'il te plaît.
Non, je pense qu'il faut dire certaines choses. Si l'on n'est pas conscient de la situation, on ne ferait jamais de projet pour avancer. C'est parce qu'on sait qu'il y a manque criard de salles de classe qu'on a dit.
Il manque d'enseignants également.
On va construire 30 000 salles de classe d'ici à l'horizon 2020.
C'est pas fini. C'est réduit à la baisse.
Non, pas du tout.
Mais Pascal,
de l'autre côté. De l'autre côté,
dans une logique de taux flagellation.
On laisse Eric et continuer son argumentaire. On parle
de la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, c'est d'abord les enseignants. L'éducation, nous disons, nous les parents, nous sommes appelés à contribuer à l'éducation de nos enfants. Mais l'enseignement, l'instruction, ce n'est pas des enseignants. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a décidé de mieux former les enseignants eux-mêmes. C'est pour ça qu'il est décidé que personne ne pourra plus être enseignant s'il n'est pas passé par une école pédagogique. C'est très important. Et donc, je crois que tout ça, ça permet quand même au Togo d'avoir quand même tout ce que nous appelons
des tests. Il y a Émile, ça fait très longtemps. Mais je ne suis pas de la dernière, plus qu'il me raconte ces histoires.
Non, mais attends, je ne te raconte pas des histoires.
Isidore, s'il te plaît, c'est un débat d'idées qu'on est en train de faire. Il faudrait que chacun. C'est un débat d'idées.
Quand tu parles, tu avances tes argumentaires, oui. Mais ne me dis pas que ce que je dis n'est pas
Eric,
vrai.
Eric, s'il te plaît. Eric,
qu'est-ce que Eric dit?
Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Adam, on s'intéresse à un autre sujet.
Isidore,
les gens nous suivent à la maison. Il faudrait qu'on laisse le temps aux gens de nous suivre à la maison. Isidore, on n'est pas en train de faire un débat chez nous ici seulement. C'est à une radio et les gens nous suivent. Il est très important quand même qu'on respecte ces gens-là. S'il vous plaît. Si vous avez quelque chose à dire, donnez le temps à la personne à l'heure de dire d'abord et on y va. Alors, oui, Adam, on quitte le sujet. On parle alors d'un autre sujet. C'est vrai qu'à la rentrée politique tout récemment, du cas Comité d'action pour le renouveau, le cas proposait une co-gestion. Une co-gestion, c'est vrai que ce n'est pas du nouveau. Il y a son ancien président, le feu Agbouibo, il y a Ovie Agbouibo, qui avait proposé même d'ailleurs cela aussi en son temps, pratiquement il y a cela 16 ans. Alors, co-gestion, aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même que ça va marcher ou bien c'est
utopique? Une co-gestion du pays, vous dites.
Oui, justement.
Oui, bien, vous savez, je pense que la co-gestion du pays, ou ce que un politique appelait, en tout cas une gouvernance transitoire qui permet véritablement donc de fédérer, en tout cas plusieurs acteurs. Vous savez, moi je pense que cela s'impose, lorsque vous prenez les régimes que nous avons, cela s'impose tout à l'heure. J'essaie de lire un peu, lorsque vous prenez par exemple le Sénégal, qui est en train de faire des élections législatives, vous voyez la coalition de Macky Sall dit, ils veulent au sorti de ces législatives-là imposer en tout cas une co-gestion à la mouvance présidentielle actuelle. C'est en ce sens que les dés sont orientés. Donc, ils ont mis leur force là-dedans pour l'imposer. Donc, je pense que les mécanismes politiques même l'imposent. Maintenant, lorsqu'on nous dit, nous sortons d'une élection, il y a eu un vainqueur de ces élections où la population togolaise a décidé d'offrir la gestion du pays. Lorsque vous avez cette majorité-là, je ne crois pas qu'on puisse donc parler de co-gestion, à part cette période transitoire où on l'a essayé déjà, parce que vous savez qu'il y a des acteurs politiques qui sont introduits dans la gouvernance actuelle, ce qui n'était pas le cas par le passé, parce que après tout, il y a un bilan fait et les Togolais vous attendent au tournant, parce que c'est à vous on a confié dans la gestion du pays. Mais si tel est que, je pense que Le pays a également essayé ça lorsque les gens sont réticents. Même on l'a vu avec cette période transitoire où, en tout cas, le fait de pouvoir donc introduire un ministre d'un parti politique sera lui a coûté donc des sanctions. Ça voudrait dire quelque part que les mécanismes sont là pour l'imposer. Mais à partir du moment où vous sortez des élections, où on vous confie la gestion du pays, vous êtes responsable devant le peuple.
D'accord. Eric, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Quel est le message derrière cette proposition alors du CAR?
Le CAR veut que le pays soit dirigé. De quelle manière? Personnellement, quand j'ai écouté Daté parler, le président du CAR parler, je me suis posé plusieurs questions. Sous quel format cette co-gestion-là va être d'abord? On a des élections législatives. Et c'est ces élections-là qui permettent d'avoir un premier ministre et d'avoir un gouvernement. Alors, si les élections sont défavorables à certains partis politiques, est-ce que c'est ces partis politiques-là qui vont co-gérer le pays avec le parti qui a gagné les élections? La deuxième chose, quand on dit co-gestion, on peut aller encore plus loin. En parlant des institutions de la République, ça veut dire que on peut avoir un gouvernement avec le parti qui a gagné les élections, mais pour les autres institutions de la République, on peut avoir des partisans, sinon des militants d'autres partis politiques.
Mais est-ce que ça n'a pas été expérimenté avec l'UFC?
Avec l'UFC, il y a eu un accord.
Justement,
c'est carrément différent. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je demandais le format. Donc, je pense que quand on parle d'accord politique, c'est carrément autre chose. Mais là, la co-gestion dont M. Daté parle, je voudrais quand même mieux qu'il nous explique cela pour que nous puissions comprendre. Je parlais du gouvernement. Est-ce que c'est avoir des membres du gouvernement, des membres des autres partis politiques au gouvernement, ou bien avoir ces membres-là à la tête des institutions de la République, ou comment ça va se faire cette co-gestion du pays.
D'accord. Isidore, quand on propose une co-gestion, est-ce que ce n'est pas peut-être l'incapacité d'accéder au pouvoir qui se révèle ainsi?
Non, pas du tout. Je parle plutôt d'un arc politique.
Comment ça?
Ah oui. Appelons les choses par leur nom. Ça a été expérimenté au sorti des accords de la conférence nationale souveraine. C'était la co-gestion. Même parlant de l'accord RPT-UFC. Quand vous lisez, j'ai encore ça, hein. C'est la co-gestion. Qu'ils vont co-gérer le pays. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Tapamé, ou plutôt Palimé, et dans cette... il y a des préfets qui sont d'obédience UFC. C'est la co-gestion. C'était la co-gestion. Qu'est-ce que ça a donné? Je vais rappeler que la co-gestion s'impose aux gouvernants quand ils sont en difficulté. Quand le rapport de force leur impose ça, ils le font.
Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et quand appelle-t-on le baromètre, ce n'est pas des élections. Mais les élections, est-ce que nos élections, la vérité des unes, sont proclamées? Non. Donc, ce n'est pas un baromètre. Ce qui fait que ceux qui ont toujours gouverné ce pays, plus de 60 ans, n'arrivent pas à s'en sortir, malgré leurs efforts, leur volonté. Les citoyens ne se sentent pas concernés par la gestion. C'est ça le nœud du problème. N'importe quel, aujourd'hui, on peut décréter la co-gestion. Il faut dire, bon, venez, hein, et on va co-gérer. Ben, la population ne se sentira pas concernée tant qu'il n'y a pas une volonté d'aller à une alternance.
Mais est-ce que avec la proposition aujourd'hui, est-ce que les gouvernants se sentent même d'ailleurs concernés par ça?
Pas du tout. Nullement. Parce que devant eux, il n'y a rien. Devant eux, c'est maïs, comme le disent les Ivoiriens. Il n'y a rien. Il n'y a pas un rapport de force pour les obliger à accepter, à concéder le minimum de pouvoir. Mais maintenant, quand je parle de l'ANAC, un pays, ça a été expérimenté à Taromé. Hein. Il y avait des successions à Romalegbe, à Kpiti, Maga. Hein. Trois mois. Toi, tu viens gérer. Trois mois, l'autre vient gérer. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. C'est de l'anarque politique. Et aucun gouvernement, quand vous êtes dans ce système de co-gestion, aucun gouvernement n'est responsable. On va dire que nous avons tout géré ensemble. Et c'est la population qui va être bernée.
D'accord.
Celui qui gagne les élections gouverne, et que ce soit des élections crédibles où la vérité des urnes est proclamée.
D'accord.
C'est tout.
D'accord. Nous allons marquer une pause et donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent, je le crois bien, hein, à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour la télé. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez maintenant se prononcer aussi sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Allô? Bonjour.
Bonjour Papa Sodiné.
Oui.
Comment vous allez?
Oh, ça va, et chez vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu. Allez-y.
Merci. La congestion dont vous parlez là, bon, on a remarqué que un autre parti avec le parti, je parle de l'UFC, et que ça a donné quelque chose. La congestion, on remarque que ça ne donnera rien. Si ça a donné dans d'autres pays, mais chez nous ici, je crois que ça ne va rien donner. Merci, bonne journée.
Merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, pas la grâce, c'est chez vous.
Et je voudrais intervenir pour votre chose.
Oui, oui, votre nom, c'est...
Et c'est Nourou.
Nourou.
Abidjan-Gobé.
Allez-y.
Bon, en fait, quand vous parlez de... Moi, je parlais de mesurer les trucs. Les gens quittent, ils prennent l'avion. Ils viennent descendre maintenant à l'aéroport. Ils viennent rester à l'hôtel de février. On leur fait à manger. Ils font tout. On leur propose des ce qu'ils veulent. Ils recopient. Ils calculent. Quand ils veulent, normalement, si c'est par le Burkina, ils n'ont qu'à venir passer. Commencer par Mondouri, voir les écoles, voir les routes, arriver jusqu'à Lomé. Et pouvoir maintenant dire maintenant que le Togo est tel lien. C'est comme ça, ça doit se faire. Mais ça ne va pas venir rester à l'hôtel de février, manger, on leur propose ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas comment la population vit, comment les gens trouvent à manger, comment les gens fatiguent. Et on dit maintenant que le Togo est classé 5e, il est classé 22e, et que vous êtes content. Vous êtes là, vous dites n'importe quoi.
Allô, Monsieur Nourou. Allô, il est parti. Allô.
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, je vais bien, par la grâce.
D'accord, c'est Évangéliste Senghor.
Ouais, c'est l'Évangéliste Senghor. Les collègues journalistes, bonjour.
D'accord, oui, bonjour.
Voilà. Vous savez, les frères Togolais, moi, je vous appelle en tant que depuis là, en tant qu'un évangéliste, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Vous savez, dans la Bible, là, la première adoration de Dieu commence à la maison. L'évangéliste Senghor va dans les pays, il fait des séminaires, il organise des colloques, il prêche, il prie pour des malades, tout ça là. Il oublie sa maison, Dieu dit qu'il ne me connaît pas. Il doit encore le réitérer. Je dis, je fais toutes choses en dehors, à l'extérieur. J'oublie ma maison, Dieu dit que lui ne me connaît pas, je vais en enfer. Je voudrais tout simplement que les dirigeants togolais mettent de l'eau dans leur verre, commençant par mon grand frère Paul Yassine. Aujourd'hui, comme le vient de dire mon frère là, le Togo est 22e, il est ceci, il est quoi, on fait des médiations. Mais alors que ta maison a des problèmes, commençant chez moi en pays Kabyakara, la misère dans toutes les 5 régions, la misère de Kara, ça dépasse à toute chose. Donc je voudrais que mes frères, il faut qu'il y ait de l'argent dans ce pays. Moi, je suis transitaire au port. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'on n'a pas de moyens au Togo, c'est un menteur. Le Seigneur nous a bénis, très bénis. Mais pour terminer, tout ce que nous posons comme des actes, je dis, le président de la République, c'est Dieu qui lui a donné cette mission de conduire la population, non pas des animaux. Il a un compte à rendre à Dieu un jour. Repentons-nous, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le Togo.
Merci, évangéliste Ego, pour votre intervention. Allô?
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, je connais moi.
D'accord. Allez-y.
Non, il faut dire aux gens, aux autres là-bas. Ah non, 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 vous dites qu'il ne faut pas leur parler. Bon, moi, je pense que le président doit savoir qu'il ne dirige pas des animaux et que quand il cherche chaque instant et à chaque moment que la population souffre amèrement, lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait, hein. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça, on vous dit. Dans toute la sous-région aujourd'hui, les prix sont à la baisse. Sauf lui, parce que leur objectif, c'est de faire souffrir la population qui doit souffrir amèrement. Pourquoi ça? Vous n'êtes pas que de l'air. Vous n'êtes pas que de l'air. Tous ceux qui viennent supporter ça là. Vous autres, vous n'êtes pas togolais. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oh, quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? Que les prix baissent un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est au Togo qu'on dit que non, un dirigeant, il ne parle pas, il fait l'action. Mais c'est quelle action que nous on fait ici? Pour faire souffrir les populations. C'est ça seul que nous on connaît. Mais si tu ne veux pas, les gros bras sont là. Ah, c'est dans ça nous sommes.
D'accord. Merci pour votre intervention, Basile. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Nyamavo, monsieur.
Allez-y.
Oui, je vous ai pris un vol, mais je reviens encore en pas de coup de soin. Je disais que je salue le monument à Bouyba. Il était dans sa position tranquille. Il fait sa politique. Mais quand il irait dos au mur, il va vers lui pour négocier un dénouement. Oui. Ce n'est pas aller rester dans la mangeoire et puis pleinement dit qu'on fait position. Il n'a pas rentré. Je ne sais pas si actuellement le maire va faire un des projets ou bien quoi, je ne sais pas trop. Donc on nous amuse beaucoup, quoi. Est-ce une regarde ça? Regardez les Humbo qui sont venus, les technocrates, ils n'ont pas fait si voilà. Ils ont des tarifs. Hein? C'est un rapport de force comme quelqu'un l'a dit. Je crois savoir que quand l'UFC voulait se rallier, il paraît que les lieutenants avaient demandé certains postes clés. Des militaires des armées, l'économie. Bon, les militaires clés là, comme ça, vous pensez que le pouvoir va vous donner pour co-gérer ça avec lui. S'il faut co-gérer maintenant, on va attendre peut-être 50 ministres, hein, ministres adjoints, ministres collaborateurs, ministres quoi. On va créer beaucoup de ministères. Vous voyez? Donc, chaque fois, on ne sait même pas ce qu'on nous nourrit au Togo aussi. Laissez-les. Un jour, les Togolais vont se réveiller. Hein. Parce qu'ils ont vu que les Togolais sont fatigués, ils ont fait marche arrière, mais c'est pour mieux sauter. Donc, ceux qui veulent aller, il faut gérer. Ils n'ont qu'à aller le jour que les Togolais, le jour des Togolais viendra et ils sauront que le Togolais. Je souhaite que, et par exemple, le ministère de l'Éducation, on lui passe la main au sommet de l'État, a vu les réformes au niveau de l'éducation, hein, ça dit, c'est clair, on ne peut pas arriver à un Dieu de la race. Donc au niveau de l'agriculture, partout, il va corriger beaucoup de choses. Donc on a, c'est pas qu'on n'a pas des intellectuels, mais on va les barrer la route. C'est ça le problème.
D'accord.
Souhaitons que le ministère de l'Éducation aille au sommet pour que les choses aillent mieux.
Ok. Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75.
Allô.
Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Allô.
Allô. Décidément, il est parti. 90, 86, 35, 35. Allô. Allô.
Oui, allô.
Bonjour.
C'est toujours l'évangéliste Senghor.
Oui, évangéliste
Senghor. Comment est-ce qu'on peut comprendre que mes chers journalistes, un porte-parole du gouvernement, je voudrais parler de mon frère Trimois, qui fait une déclaration, dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo, dans nos prisons togolaises. Vous savez, excusez-moi, hein, les gens parlent comme il n'y a pas Dieu. Les gens parlent comme vraiment Dieu, c'est vrai. Moi, je le dis souvent, je le réitère que il faut intervenir, il faut parler, mais il faut pas insulter. Il faut pas quand même embêter le gouvernant. Mais aujourd'hui, même les enfants de 5 ans savent qu'il y a des prisonniers politiques. Maintenant, quelqu'un qui sort comme ça gaillardement, et il dit qu'il n'y a pas de prisonniers. Moi, je sais que mon grand-père, quand il a signé, il est en train de penser comment faire pour un dialogue inclusif, pour un dialogue pour libérer ceux qui sont emprisonnés pour la constitution de cette nation. Excusez-moi, tous ces collaborateurs qui sont là, je les mets en garde. Qu'il ne faut pas qu'on envoie ou bien qu'ils tirent mon frère dans le trou, je parle du président de la République.
Merci. D'accord, merci pour votre intervention. Alors, nous avons notre dernier auditeur en ligne. Allô, voilà, bonjour. Madame Essi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Madame Essi, comment vous allez?
Voilà, je fais un coucou, oui, ça va, quoi. J'en ris, hein, je ris des débats, des trucs. Et puis, je fais un coucou à Sass, à Eva et tout le monde. Et puis, voilà, vous avez parlé de la cohérence avec le cas. Et puis, la gouvernance, en gros, c'est ça, non?
Tout à fait.
Moi, tout ce qui me rabâche les oreilles, cohérence, machin, c'est de la retrahison. Moi, je le prends comme ça. On a dit un mandat de 5 ans. Cogérance en quoi? Comment ils vont arriver à gouverner pour appeler le régime, c'est-à-dire le RPT, à cogérer avec eux quand? Non, on a dit un mandat de 5 ans, mes frères. Les gens n'ont qu'à alterner. Ils nous ont grugé, c'est qu'en 5 ans, c'est qu'en 6 ans de pouvoir. On serait loin si on alternait tous les 5 ans, tous les 5 ans. On serait loin. Même Pascal, là, qui va gouverner partir depuis. Même moi, là. Tout le monde, les partis politiques. On n'en serait pas dans cet état-là. Où les gens ont brassé la République, ils en jouent seuls, sans développement. C'est pas normal. Les gens doivent comprendre qu'ils doivent alterner. Ils doivent alterner la semaine prochaine, par exemple. On sera très heureux. Voilà. Pour 30, moi, je suis 30 ans. Moi, je suis une pompiste. Et puis voilà, avec Trump, les 4 ans qu'il a fait, il n'y a pas eu de djihadistes, il n'y a pas eu de guerre d'Ukraine, tous ces trucs-là, parce que lui, il combat le monde profond et le nouvel ordre mondial.
D'accord.
Hein? Voilà.
Non, mais merci beaucoup, madame.
Moi,
merci.
C'est les démocrates qui nous ont mis dans cet état-là, depuis 63, là. C'est les démocrates.
D'accord.
Qui nous ont mis dedans, là.
Merci beaucoup, madame Essi, pour votre intervention. Vous êtes la dernière auditrice pour le compte à l'heure de cette émission de ce mardi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour clôturer cette émission. Et, mais j'aurais voulu vraiment qu'on se prononce sur la présidentielle aux États-Unis, qui se déroule même aujourd'hui mardi, 5 novembre, et pour faire le tour de table tel que nous l'avons fait même hier. Et Adam, il y a entre les Américains doivent choisir entre Donald Trump, l'ancien président Donald Trump, et Kamala Harris, qui est la vice-présidente. Vous, déjà, quelle est votre appréciation alors de cette politique aux États-Unis?
Non, moi j'ai fait un éditorial que j'ai publié aujourd'hui dans notre livraison de ce jour. C'est vrai que pour beaucoup, ils estiment que voilà, ce sont les élections aux États-Unis, ça concerne les Américains. Mais lorsque on connaît un peu le poids des États-Unis dans l'influence et dans de nos politiques stratégiques. De toute évidence, il y a lieu quand même que tout le monde entier puisse donc être concerné par ces élections. Moi, je pense que c'est vrai que c'est la première fois ou pratiquement l'une des rares fois où on a une élection assez serrée. Il n'y a aucune prévision aujourd'hui qui laisse quelqu'un en avant. Mais je suis plus favorable à l'élection du démocrate, puisque je suis aussi démocrate. Je suis plus favorable à lui compte tenu du fait que ce soit l'un ou l'autre. En tout cas, les mouvements actuels que nous avons dans le monde entier, c'est vrai pour certains, c'est lorsque nous prenons le cas de Donald Trump qui dit le conflit en Ukraine va être, en tout cas, il va le stopper justement. Peut-être qu'il va éviter de financer davantage l'Ukraine contre la Russie, etc. Mais moi, je suis plus favorable quand même à l'élection de Kamala Harris.
D'accord. Eric ?
Oui. Non, les élections aux États-Unis constituent véritablement un moment de bouleversement mondial. Et j'ai suivi hier jusqu'au dernier meeting des deux candidats. Et j'ai compris qu'en réalité, ces deux candidats se battent d'abord pour leur pays. Ils veulent montrer la puissance des États-Unis en se disant, lorsque en interne, nous arrivons à développer notre économie, nous arrivons à mettre en place des institutions fortes, les États-Unis seront toujours ce qu'ils sont, c'est-à-dire la première puissance mondiale. Et donc, au-delà maintenant, quand on veut parler de la politique international, les deux candidats pratiquement au cours de leur dernier meeting ne se sont pas prononcés déçus, et tout simplement parce qu'ils estiment que lorsqu'ils seront encore plus forts, ils pourront mettre la main sur la politique internationale. Je n'ai pas personnellement de favori parce que je me dis, cela dépendra de la façon dont, vous savez, nous avons une très importante colonie africaine aux États-Unis. Et donc, la façon dont cette colonie-là sera gérée par un camp ou par l'autre, c'est là où on pourra se prononcer par rapport à ces élections.
D'accord. Isidore ?
Non, au fait, moi, j'ai une admiration pour Trump. Parce que il n'est pas de l'establishment.
Vous le dites, mais vous fixez, Adam, je ne sais pas pourquoi vous le fixez.
Il n'est pas de l'establishment. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les...
Dans la diplomatie.
Pas dans la diplomatie, autre là. Il a dit, America first. Donc, il lutte pour les États-Unis. Je veux aussi que nous, Africains, nous puissions lutter pour nos pays. Mais là où il m'a déçu, c'est l'attaque.
Il vous a déjà déçu?
Oui. Quand il a demandé à ce qu'on a on puisse vandaliser, attaquer et Capitole. C'est quelqu'un qui chamboule tout. Il est insaisissable. Tu ne peux pas savoir. Il est imprévisible. Et il tire la démocratie vers le bas.
Et pourtant, vous le préférez?
Non, j'ai dit que j'ai eu une admiration.
D'accord, pour lui.
Pour lui, et de n'être pas...
Compte de ça, vous préférez Hillary.
Oui, oui, mais... Non, je ne préfère pas à Hillary. Mais est-ce que m'envoie compte là-bas? C'est ça le problème. Nous n'avons pas à voir au chapitre. Nous n'avons pas à voir au chapitre. Et que le meilleur gagne, c'est les Américains qui vont décider.
Oui, c'est l'essentiel.
Mais ce que je reproche à Trump, c'est de tirer la démocratie vers le bas.
D'accord. L'essentiel, c'est vraiment que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne.
Justement.
Maintenant, nos cartons, non?
Oui, mais rapidement, votre
note. Oui, et carton rouge.
Votre note, plutôt. Votre note.
Non. Et je donne 2/20.
À qui?
Et au ministre de la fonction publique. Pour avoir
le ministre Bawara.
Bawara pour avoir lancé un concours sans avoir fait l'état des concours de 2022 et annulé pour 2022 sans parler de 2000 depuis 2020. Ça parlait de 2022.
D'accord, ok.
Mais merci. Pourquoi?
Oui, mais voilà. Non, je vous comprends.
Non, ça, c'est 2 sur 20.
D'accord, 2 sur 20. Ça, c'est médiocre, hein?
Médiocre.
2 sur 20. Alors, oui.
Oui, moi, j'ai eu une note rapidement, oui. 8 sur 10 pour le ministre de la Justice pour les efforts consentis.
Le ministre Nam Tougli.
Oui.
D'accord.
Dans le secteur.
Ok. Mais d'accord. il faut qu'on règle déjà le problème des gardes moto qui ont doublé le prix de gaz. C'était 100 francs au départ, au niveau de la justice. Maintenant, c'est devenu 200 francs et tout le monde se plaint. Et tout le monde se plaint. Alors, non, je dis au niveau du palais de justice.
Oui, mais votre note maintenant.
Non, je donne 8 sur 9.
Non, sur 10. C'est sur 10 ou bien 9 sur 10.
Au ministre Kokoroko qui vient de sortir des notes de service.
Tout à fait.
Pour mettre en place des points focaux pour lutter contre les violences sexuelles dans les établissements scolaires.
D'accord, justement.
Oui.
Voilà. Même, je pense qu'il a fait sortir même une note également pour interdire, comment l'appelle-t-on, la présence des élèves à la fois. Et surtout les élèves à l'ordre de coup primaire, oui, voilà, à la fois. Alors, merci beaucoup, cher confrère, et Adam Androno, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Et merci beaucoup, Eric Johnson, d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union pour la Patrie. Et Isidore Akolor, merci d'être passé aussi dans cette émission. Ça fait toujours plaisir, des fois, et ça devient chaud en studio, mais c'est ça contribue également au débat. Merci d'être passé. Vous êtes le directeur de publication du journal Actu Express. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés. Thomas était d'ATV à assurer la mise en onde. Merci à Jérôme Akoutsa qui a assuré la mise en ligne. Je vous retrouve déjà mercredi demain, bien sûr, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Appelez-moi Pascal Lossou. Au revoir.